Bonjour, vous êtes bien sur Bac FM 106.1. Bac FM, la radio lycéenne, qui nous prête aujourd'hui son antenne. À moi-même donc, Guillaume Sauvage, hein, qui va avoir le plaisir d'interroger Clément Denuit autour d'un sujet qui fait souvent réagir, celui de la laïcité. Bonjour Clément.
Bonjour Guillaume, et merci de m'interviewer.
Alors quelques mots seront utiles, hein, je pense, pour expliquer à nos auditeurs pourquoi il est intéressant de vous écouter sur ce sujet. Vous êtes professeur de philosophie en lycée. Mais vous êtes également chercheur sur la question de la laïcité, puisqu'il me semble que vous vous consacrez actuellement à un travail de thèse relatif à ce sujet, je ne me trompe pas?
C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je débute un travail de recherche, notamment, pour ne pas trop ennuyer l'auditeur avec ça, essayer de fonder la loi de 1905 ou le principe de laïcité sur la philosophie de Spinoza, et pas, comme c'est fait souvent, sur la philosophie de Locke, qui pense lui plutôt la tolérance. On peut connaître de Locke l'essai sur la tolérance, la lettre sur la tolérance, et la laïcité, en tout cas assurer ou garantir la liberté de conscience, c'est pas la même chose que la tolérance. La tolérance, comme le disait Mirabeau, c'est le fait du prince. Autrement dit, on supporte que quelqu'un pense différemment, mais quand ça plaît plus, on arrête. Tandis que la laïcité garantit la liberté de conscience. C'est un droit, donc c'est autre chose.
On voit que vous nous entraînez d'entrée de jeu dans une pensée profonde sur laquelle, j'espère, on aura le temps de revenir un petit peu. Dernière chose que je voulais dire sur vous, c'est qu'on vous s'est engagé, vous appartenez à la Fédération Nationale de la Libre Pensée. Alors on peut rappeler que c'est une association type loi de 1901 qui promeut la libre pensée, alors pour le dire autrement, le libre examen, la liberté de conscience, et aussi qui prône la laïcité. Elle se réfère à des principes rationnels, scientifiques, cette Fédération Nationale de la Libre Pensée. Elle cherche en tout cas à s'affranchir des dogmes. C'est une des plus anciennes associations de France, c'est bien cela ?
Oui, c'est une ancienne association fondée en 1847. Alors c'est une association, tu l'as dit en détaillant un petit peu cette pratique du libre examen, de la critique des dogmes ou du refus des dogmes. C'est une association philosophique et d'éducation populaire. Autrement dit, ça passe par l'instruction, par la compréhension. Ça prend racine dans les Lumières, ça passe par les révolutions américaines et françaises, la Commune de Paris, et ça regroupe donc au milieu du 19e siècle trois ou quatre grands courants politiques, les anarchistes et les marxistes, les radicaux et le Grand Parti de la République, et puis les loges maçonniques du Grand Orient de France. Et c'est ce creuset, cette association dans laquelle ces différents courants vont pouvoir discuter ensemble pour développer la République démocratique et sociale. Elle milite sur quatre points principaux qui se coordonnent ou qui s'associent, qui se renforcent. D'abord, essentiellement, l'anticléricalisme, c'est-à-dire l'utilisation par un pouvoir politique de la religion pour asseoir sa domination, ou à l'inverse la captation du pouvoir politique temporel par un pouvoir religieux pour imposer ses dogmes, donc défense de la liberté de conscience et aussi de l'exercice des cultes. Rationalisme aussi, tu l'as dit, alors le rationalisme ou la raison a souvent mauvaise presse en ce moment puisqu'elle est associée à des dérives du scientisme plus que de la science. On l'accuse de tous les maux, d'être responsable des catastrophes du XXe siècle et puis des dérives, disons, technologiques. Ici, il s'agit de penser une raison plus dialectique, plus critique, qui s'approche de la compréhension. Et puis, deux autres points, donc l'antimilitarisme, très, très important, et puis social, c'est-à-dire elle s'oppose aussi à l'exploitation de l'homme par l'homme, elle s'oppose à l'exploitation capitalisme qui est cette opposition ou ce caractère social qui est la condition d'une émancipation.
D'accord, ben c'est déjà très éclairant. Ça nous ramène à l'actualité donc de cette Fédération de la Libre Pensée. On sait qu'elle organise le 20 septembre de cette année une journée internationale, hein, dans le cadre d'un anniversaire important, celui des 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, c'est-à-dire en fait la loi de séparation des églises et de l'État. Alors on rappelle parfois que c'est une loi fondatrice de ce qu'on considère comme la démocratie en France, une loi fondatrice du principe de laïcité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur la laïcité pour qu'on comprenne bien l'importance de cette loi telle que formulée en 1905, mais aussi l'importance de cette loi toujours de nos jours, j'allais dire?
Alors la loi, effectivement, prend de l'âge, puisque en fait, cette année, comme tu l'as dit, c'est 120 ans. Mais si la loi prend de l'âge, on peut dire que le principe, lui, ne se corrompt pas, d'où l'importance, toujours pour la libre pensée, de la défendre. C'est la raison pour laquelle elle organisera un meeting au gymnase Japy le 6 décembre à Paris, donc un meeting unitaire avec différentes forces laïque. Dans ta question, tu associes la loi de 1905 à la démocratie. Et effectivement, il semblerait, appelons ça comme ça, le mouvement social actuel déplore un manque de démocratie. Souvent, quand on rappelle l'article 1er de la Constitution de 1958, où la laïcité y figure, hein, la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale, on rajoute « une » et « indivisible ». Or, le « une » n'y figure pas, indivisible, c'est-à-dire la souveraineté est indivisible, la souveraineté est populaire, c'est le peuple qui détient la souveraineté. « Une », ça signifierait qu'il faut former une forme d'unité ou d'homogénéité, ce qui s'opposerait au pluralisme démocratique. La laïcité est là pour permettre, assurer, garantir la pluralité et donc la démocratie. La laïcité, ça vient du mot laïos ou laos, qui désigne le peuple égal, sans distinction. Et ça implique aussi, j'insiste là-dessus, un pouvoir politique qui se fonde indépendamment de Dieu. Il n'y a rien, on ne place pas la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes. En France, c'est Buisson, Ferdinand Buisson, qui a été directeur de l'instruction primaire de mémoire, 1879 jusqu'à 1895, quelque chose comme ça, enfin, pendant très longtemps, presque 19 années, 20 années. Et la laïcité, il l'a pensée comme l'émancipation intégrale, il l'a définie dans le dictionnaire d'instruction primaire. C'est pas seulement la séparation des églises et de l'État, elle est une condition, c'est plus que ça. Donc la loi de 1905, pour préciser les choses, donc c'est la loi portant séparation des églises et de l'État, pour assurer la neutralité de l'État, c'est-à-dire que l'État est non confessionnel, et il faudrait préciser à religieux, c'est-à-dire, comme pour reprendre l'expression d'Aristide Briand, il est indifférent à l'égard des religions, comme le dit l'article 2, il ne reconnaît aucune religion, ça permet l'égalité des citoyens devant la loi, et ça assure la garantie, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est pas la même chose que la tolérance. Hein. La tolérance, c'est le pouvoir qui supporte l'expression d'une opinion ou d'une foi qui serait différente de la sienne. Non, l'État n'a pas de conviction religieuse. L'État est laïque aussi, il faut le préciser, mais pas la société. Autrement dit, ce libre exercice des cultes peut se manifester publiquement. Ce n'est pas une affaire strictement intime et privé. La laïcité, c'est pas non plus un athéisme d'État, c'est pas non plus la sécularisation. Je termine, ça permet aussi la promotion de la raison et de la science et des lumières. Ça implique un citoyen, au fond, qui soit responsable de son existence, qui s'instruit, qui est responsable de lui-même et aussi devant la société. C'est le sapere aude, sers-toi de ton entendement de Kant, hein, ça reprend cela. Et ça permet d'éviter cette séparation des églises et d'État, les guerres religieuses, les guerres civiles, ça favorise la concorde. Bref, on pourrait dire que c'est la condition de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, même si ça ne suffit pas.
Alors, c'est intéressant que vous fassiez ces développements, et tout en même temps que vous ayez rappelé un petit peu le pédigré, si j'ose dire, d'hommes comme Aristide Briand, Ferdinand Buisson, hein, un personnage, effectivement, qui a conduit à l'élaboration de cette loi de 1905. Ces hommes qu'on vient rapidement d'évoquer, ils ont eu le sentiment de mener un combat à l'époque. Ça a été dur, excusez-moi de le dire aussi bêtement, mais il y a eu une véritable bagarre pour cette loi de 1905. Est-ce que vous pouvez nous repréciser le contexte de l'élaboration de cette loi, le contexte de 1905, là, pour le coup?
Donc, sans vouloir être trop long, oui, effectivement, on pense qu'il y a la Révolution française, 1789, et puis, paf, on arrive directement à la République, alors que non, le 19e siècle a été, il y a eu la Restauration extrêmement monarchiste, royaliste. Donc, les Républicains ont dû se battre pour faire exister la République sociale et démocratique. On dit souvent, donc cette séparation se fait progressivement. Avant qu'il y ait la séparation des églises et de l'État, il y a d'abord la séparation, on dirait, de l'école et des églises.
Oui,
c'est
fait,
la laïcisation de l'école avec Ferdinand Buisson dont on a parlé. On peut dire, on dit souvent qu'en 1905, et puis donc avant, dans l'époque qui précède, il y a un conflit des deux Frances, donc une France qui est catholique et royaliste, je caricature un peu, et puis de l'autre côté, un bloc républicain. Et le but, c'est d'éviter une guerre religieuse, d'éviter une guerre civile. Émile Combes, qui a été président du Conseil de 1902 à 1905, était très anticlérical, donc cette poussée anticléricale crée des tensions. Le Vatican, le pape intervenait, et donc la sagesse de Briand, ça a été d'une part de faire en sorte qu'il y ait une loi de séparation, et de faire une loi de séparation qui ne brutalise pas l'Église catholique ou les Églises pour qu'elles ne puissent pas se sentir persécutées. Ça a été sa force. Alors si j'essaie de décrire un petit peu les forces à l'Assemblée, l'abbé Guéraud, qui représente, disons, les catholiques, les monarchistes, qui préférait le statu quo d'une certaine manière. Je rappelle qu'on est sous le concordat, autrement dit, il y a un service public des cultes, et le culte catholique, comme trois autres cultes, est financé par l'État, donc c'est une ressource financière importante. Donc l'abbé Guéraud préférait un statu quo. De l'autre côté, il y a les anticléricaux, qui sont représentés par Maurice Allard, qui propose un député du Var, qui propose lui un contre-projet par rapport à celui de Briand, qui propose le projet de... C'est le rapporteur de la commission qui a produit le texte que nous connaissons. Et lui, c'est plutôt, comme le dit Aristide Briand, un projet de suppression des églises par l'État. Donc très anticlérical, un athéisme d'État. Et ça risquerait... Enfin, c'est pas ça risquerait, ça produirait une sorte de persécution des catholiques par l'État. L'État n'a pas cette vocation. Briand lui propose justement une séparation, quelque chose de beaucoup plus équilibré, pacifiste, on pourra lui reprocher. Et là-dessus, le génie de Jaurès, pour que le texte passe et que cette séparation puisse se faire et qu'on puisse ensuite se concentrer sur des mesures plus sociales, c'est justement d'appuyer le texte de Briand et d'essayer qu'il n'y ait pas de division à gauche. Maurice Allard divisant le texte, la majorité qui peut se faire autour de Briand. Voilà.
Alors, c'est très intéressant ces précisions, parce que d'entrée de jeu, vous nous expliquez, si je ne me trompe pas, que du coup, on peut dire le gouvernement français, pour en parler rapidement, achève de conquérir une certaine autonomie. Hein, c'est la lutte pour son expression indépendante vis-à-vis, on peut dire, des pressions religieuses. Donc on comprend derrière cela qu'il y a une ambition pleinement démocratique autour de cette loi de 1905. Est-ce que vous y trouvez Trouveriez-vous aussi à cette loi une dimension sociale? Je pense en particulier à cela en insistant, puisqu'on évoquait précédemment, trop rapidement, la personnalité d'un Ferdinand Buisson, bon, qui avait une dimension démocratique certaine, président de la LDH, de la Ligue de l'Enseignement, mais qui avait aussi, je pense, des volontés sociales lorsqu'il portait cette loi.
Oui, c'est un point central, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ferdinand Buisson veut une émancipation intégrale, autrement dit la laïcité formelle, c'est-à-dire simplement juridique. Il y a un texte de loi qui garantit en droit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, mais au fond ça ne suffit pas, cette liberté seulement formelle, à émanciper pleinement l'individu. Il faut des conditions matérielles qui rendent accessible cette émancipation. Alors ça passe notamment, tu mentionnes Ferdinand Buisson encore une fois, par l'instruction publique. Je prends un exemple simple. Si l'école est payante, est-ce que tous les enfants vont pouvoir accéder à l'instruction et voilà, pouvoir penser librement, développer une pensée critique? Si on maintient le travail des enfants, comme ça, c'était le cas au XIXe siècle, est-ce que les enfants iront à l'école? Non. Donc on voit très matériellement, très pratiquement, que ça implique, et ça c'est le républicanisme qui le permet, de contraindre les familles à envoyer leurs enfants à l'école, et s'ils ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école, on ira chercher les enfants à la ferme, et l'école doit assurer, l'État doit assurer une école gratuite pour tous. C'est la même chose aussi au niveau du travail, puisqu'on pourrait garantir la liberté de conscience, mais par contre au niveau du travail, il y aurait toujours une exploitation très forte, et à ce titre-là, il faut aussi que l'État intervienne au niveau du travail, peut-être même jusqu'à l'abolition de la propriété des moyens privés de production. Jaurès, pour mentionner une autre figure importante qui est socialiste au sens fort du terme, marxiste presque, même s'il ne reprend pas sa philosophie de l'histoire, pense que l'émancipation laïque passe par l'abolition, au fond, de la lutte de classe. c'est la condition d'accès à l'émancipation. Pour terminer sur ce point-là, ça implique au fond une défense sérieuse de la laïcité passe par une critique du capitalisme ou du néolibéralisme.
Alors oui, c'est très intéressant cette mise en perspective, parce que ça permet de comprendre que ce qui se joue en 1905, hein, je reprends l'exemple que vous nous avez un petit peu développé, c'est l'aboutissement des lois de 1880-82 de Jules Ferry, qui crée l'école laïque, gratuite et obligatoire, les trois adjectifs étant très liés, et bien sûr directement en incidence avec la question sociale. Alors, je vous propose une rapide pause musicale, puisque là on est revenu sur des aspects plutôt historiques, on reviendra ensuite sur des faits qui nous rapprochent un petit peu plus de notre actualité. Vous voulez nous en dire deux mots ou simplement nous faire profiter de l'écoute?
Je pense que l'écoute suffit.
D'accord.
Bonne écoute.
Merci.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus il n'y a personne? Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus. Et si en plus il n'y a personne? Baruch Hashem, Inch'Allah. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Si toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ces yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de s'y bouiller. Et l'angélus ding qui résonne. Et si en plus ding y a personne? Et l'angélus ding qui résonne. Et si en plus ding y a personne?
Nous sommes de retour sur le plateau de Bac FM, un plateau sur lequel nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Clément Denuit. On l'a rapidement rappelé, professeur de philosophie, chercheur émérite sur la question de la laïcité, qui en quelques mots nous a remis dans le contexte de 1905, expliqué pourquoi la loi dont on fête aujourd'hui les 120 ans, hein, la loi de séparation des églises et de l'État, a été vue d'entrée de jeu comme un des piliers de la démocratie française et également, hein, c'est ce dont nous venons de discuter, un des piliers du vivre ensemble social et de l'amélioration des conditions sociales d'existence. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, et je voudrais un petit peu repartir de cela, c'est qu'on a pu dire que la laïcité telle que la loi de 1905 la fonde en France est devenue un modèle, bien sûr modèle pour le pays lui-même, mais pour d'autres pays. Comment vous expliquez ce succès, et puis est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour nous convaincre de la véracité du propos de ceux qui affirment cela.
Un petit point pour te piquer, mais je me trompe peut-être, tu as dit que j'étais professeur émérite, il me semble que tu me vieillis, parce que je ne suis pas encore à la retraite, et je ne sais pas si j'ai beaucoup de mérite non plus. Donc, il y a beaucoup de pays, effectivement, qui sont laïcs. On peut déplorer qu'il n'y en ait pas assez, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup d'hommes ne jouissent pas de cette liberté de conscience et de ce libre exercice du culte, ou de ne pas pratiquer de culte. Effectivement, on pose souvent la question de ce modèle français, de ce particularisme français, de cette laïcité à la française. Ce serait notre trésor à nous, et cette idée aussi que les autres ne seraient pas à la hauteur ou n'auraient pas, il leur manquerait quelque chose pour y accéder ou pour comprendre à quel point ce modèle est génial. Effectivement, il est pas mal du tout. On peut mal comprendre cela avec ce modèle français en disant qu'il est spécifiquement français. Or, il est universalisable, ce principe de laïcité, cette émancipation, cette perspective d'émancipation intégrale et ce principe de séparation des églises et de l'État dans un cadre républicain est universalisable. Alors, il y a une particularité du modèle français. J'ai dit qu'il était républicain. Alors, je préférerais dire républicaniste. C'est de Nicolin aussi ou d'autres qui font cette distinction parce que républicain, Bruno Retailleau est républicain, donc la droite est républicaine, la République En Marche est républicaine, Jean-Luc Mélenchon dit « La République, c'est moi », tout le monde est républicain, et puis on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Républicaniste, ça renvoie à une définition, disons, plus construite. Pour être républicain, au minimum, le républicain défend l'égalité de tous devant la loi, donc une citoyenneté très, très forte. La liberté est comprise comme obéissance à la loi. C'est Rousseau qui dira, s'il refuse d'être instruit, par exemple, on les forcera d'être libres. Donc l'État s'autorise une forme de contrainte pour l'émancipation et puis un souci de l'intérêt général au minimum. Alors la spécificité de la loi de 1905, historiquement, c'est qu'en France, donc on l'a rappelé, on lutte contre le cléricalisme. On a vu une guerre des deux Frances. Donc il s'agit de protéger l'État contre l'ingérence religieuse. Il y a d'autres pays laïcs où c'est pas le modèle français qui s'applique, même s'il y a des accointances et des proximités. On oppose souvent le modèle français, le modèle américain ou le modèle états-unien, qui a plutôt été mis en place pour protéger les religions contre l'État. Alors si on essaye d'opposer les deux rapidement, le modèle français, donc plus républicain, neutralité de l'État, dans le modèle français, effectivement, les représentants de l'État ou ceux qui assurent un service public ne doivent pas manifester extérieurement leurs convictions religieuses. On ne va pas voir un représentant de l'État avec une kippa, avec un voile ou avec une soutane. Une intégration républicaine aussi qui est plus forte et donc un refus, ou en tout cas un usage beaucoup plus faible de ce qu'on appelle des accommodements. Et l'État, je l'ai indiqué tout à l'heure, est religieux. Dans le modèle américain, on protège les religions contre l'État, donc on insiste plus sur la liberté religieuse et pas sur la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est plus large, hein, c'est la liberté de toute conviction philosophique, politique. Là, c'est plus la liberté religieuse. L'État est non confessionnel, mais il n'est pas non religieux ou areligieux. C'est pour ça qu'on voit le président des États-Unis prêter serment sur la Bible. Alors, il n'est pas obligé de prêter serment sur la Bible. Il peut prêter sur n'importe quel texte auquel il reconnaît une valeur, disons, sacrée ou importante. Et la société américaine, du coup, tend à promouvoir un modèle plutôt multiculturaliste avec ces amendements, il n'y a pas cette intégration dans le républicanisme tel qu'on le voit en France, et donc un représentant de l'État aux États-Unis peut parfaitement manifester ses convictions religieuses. Et le modèle américain a tendance à s'étendre et venir contester le modèle républicain qui limiterait certaines libertés religieuses, puisqu'on l'a indiqué, il y a plus de contraintes. Juste une dernière chose pour terminer. Briand, en 1905, lorsqu'il expose son projet de loi, précise que le Mexique, puisque tu indiques si la loi de 1905 a inspiré d'autres pays, elle a inspiré le Mexique ensuite en 1917, mais c'est aussi parce que déjà le Mexique avait inspiré la France en 1905. Elle inspire un peu le Québec, mais c'est un modèle intermédiaire. Elle a inspiré aussi Lénine dans son décret de 1918 en URSS. Et donc Briand disait « Le Mexique possède la législation laïque la plus complète et la plus harmonique qui ait jamais été mise en vigueur à ce jour, jusqu'à ce jour. » Donc on n'a pas attendu la France pour ça non plus.
Alors c'est vrai que cette loi de 1905, hein, elle apparaît comme très efficace, très cadrante et en même temps, bien sûr, garante de liberté, vous l'avez rappelé. Mais alors, comment comprendre qu'en 2004, on ait été obligé de rajouter comme ça une loi sur les signes religieux? Vous pouvez nous en reparler de cette loi de 2004?
Alors la loi de 2004, effectivement, elle est connue pour interdire dans le cadre scolaire les écoles, les collèges et les lycées de la République la manifestation ou le port de tenues religieuses, de signes religieux ostentatoires. Alors il faut bien préciser ostentatoire, c'est un peu plus qu'ostensible, c'est-à-dire il y a en les affichant une forme de provocation ou de revendication. Alors ce qui est difficile aussi puisque ça implique de soupçonner des intentions. Mmh. Il va falloir savoir, est-ce que c'est une provocation, est-ce que c'est pas une provocation? Alors, en ce sens, il y a des avis qui divergent, la libre pensée, sur la pertinence de cette loi. Est-ce qu'elle était absolument nécessaire? On peut considérer, encore une fois, dans une perspective républicaniste, qu'il est bon aussi de libérer les mineurs, puisque ça s'adresse uniquement aux mineurs, des signes d'appartenance à une religion qu'ils n'ont sans doute pas choisi, puisqu'ils sont encore sous l'influence de leurs parents, de leur famille. Donc, on peut les libérer de cela. Et c'est aussi le rôle de la République. Donc à ce titre-là, c'est une bonne chose, ça peut éviter des tensions, rendre l'élève plus disponible aux enseignements et le détacher d'une appartenance pour parvenir à la raison plus universelle. D'accord. Tandis que, je termine juste, on peut s'y opposer par contre, c'est le problème, il en a été question avec l'abaya. Comment interpréter un signe ostentatoire? Ça implique aussi qu'une autorité publique détermine si un vêtement est religieux ou n'est pas religieux. Et on peut s'exposer au ridicule à ce niveau-là.
Alors justement, c'est un petit peu, vous l'aurez compris, la question qui vous guette, et je vais essayer de globaliser un petit peu ce que je veux vous demander. L'ALP, Libre Pensée, organise une journée internationale sur cette question de la laïcité le 20 septembre. C'est ma question, pourquoi cette journée? Est-ce que la libre pensée a tendance à considérer que la laïcité est menacée? Est-ce qu'on peut aussi considérer qu'elle est instrumentalisée par certains? Ça renvoie à ces exemples que vous nous évoquiez. Voilà un petit peu la question que je vous posais.
Alors, le 20 septembre, d'abord, très rapidement, c'est parce que c'est la brèche de la porte Pia, c'est la fin des états pontificaux, c'est la fin du pouvoir, au moment de l'unification italienne, la fin du pouvoir temporel du Vatican ou du pape. C'est pour ça qu'on a choisi le 20 septembre. Alors effectivement, la laïcité est instrumentalisée, c'est le terme en tout cas que reprend Jean Bobéro, qui était professeur à l'EPHE. Mmh. On peut utiliser d'autres termes, elle est dévoyée, elle est retournée contre elle-même, elle est le terme aussi usurpé. Le fait est que avant 2010, peut-être même avant le 11 septembre 2001 encore plus, et encore plus avant l'affaire des jeunes filles de Creil, on ne parlait pas de laïcité, c'était un terme qui était absent. Là, je vais commencer, disons, à partir de 2010. C'est Marine Le Pen qui se saisit de ce terme de laïcité, parce qu'il est difficilement contestable, il a bonne presse, et puis aussi il est associé à la gauche. Donc c'est très habile politiquement de l'utiliser. C'était parti d'abord sur les prières de rue. Donc il y avait une occupation des musulmans par les prières de rue, alors musulmans qui priaient dans les rues parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les mosquées. Et donc c'était contraire à la laïcité, ce qui est très discutable évidemment, puisque la loi de 1905 doit assurer l'exercice des cultes, donc elle doit permettre aux musulmans de pouvoir exercer leur culte. Et donc elle menait ce combat-là, entre guillemets, ou cette lutte, ou cette politicienne, au nom de la laïcité. Un autre exemple, Jordan Bardella plus récemment, veut interdire le voile islamique dans la rue au nom de la laïcité, au nom de la loi de 1905. Je le rappelle, donc la laïcité, elle est là pour assurer le libre exercice des cultes, la séparation des églises et de l'État. Là, la laïcité devient un principe identitaire est prise dans cette préférence nationale qui caractérise le Rassemblement national. La préférence nationale, c'est pas républicain, puisque précisément la République, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Expliquons un peu. Là, en fonction de sa religion, qui est une affaire privée, les citoyens n'auraient pas les mêmes droits ou seraient traités différemment, discriminés. Ainsi, l'État n'est plus neutre, il juge selon les convictions intimes, or ça ne le regarde pas. Donc au fond, la laïcité sert désormais, et puis la droite est rentrée dans le bal, sert désormais à stigmatiser les musulmans. Alors on parle de l'islamophobie, la libre pensée n'utilise pas le terme d'islamophobie puisqu'elle se garde le droit de critiquer l'islam. On peut critiquer toute religion comme toute idéologie, mais par contre effectivement il y a un racisme anti-musulman très net du côté du Rassemblement National et qui est couvert par la laïcité. Elle est notamment instrumentalisée comme ça.
Oui, donc c'est vrai que ça renvoie à des actualités très diverses, mais à chaque fois marquantes. Alors, bon, la menace, on a bien compris d'où elle venait et comment vous la caractérisez. On sait aussi que le Conseil d'État a su défendre, hein, par exemple, les dames qui avaient été verbalisées sur des plages pour le port du Burkini. Le Conseil d'État a très sagement rappelé que, bien sûr, il n'y avait pas d'arrêtés municipaux à sortir contre le port du Burkini à la plage. La plage, bien sûr, ne relevant pas du domaine étatique.
Ce que montre Jean Bobéro, c'est l'utilisation médiatique des partis politiques. Une fois que le mot laïcité est lâché dans les médias, il y a un problème avec la laïcité, les musulmans et la laïcité, c'est parti dans les médias et c'est difficilement arrêtable.
Mais alors du coup, ça nous renvoie à d'autres lois, celle de 2021 dite du contrat d'engagement républicain. On ne peut pas dire que ça est forcément dans le sens du respect des libertés, alors si on vous suit, c'est ça ?
Alors oui, c'était dans le cadre de la loi séparatisme en 2021 qui disait, donc ce contrat d'engagement républicain, je crois que c'est l'article 12, toute association qui sollicite l'octroi d'une subvention, donc association loi 1901, s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution, et à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et évidemment à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Ça semble évident, d'accord, mais le fait est que la loi de 1901, qui est mise à mal ici ou qui est reniée, les libertés associatives sont reniées, c'est des individus s'associent et se donnent eux-mêmes l'objet de leur association et pouvaient, avant cet article, obtenir des subventions. Il n'y avait pas ce contrôle par le biais du contrat d'engagement républicain de l'État. Par ailleurs, donc, liberté associative qui est mise à mal, qui pourtant est vraiment très importante dans le cadre démocratique de la République, et puis aussi la liberté d'opinion et la liberté d'expression, puisqu'on peut interdire des opinions qui seraient manifestées dans le cadre de ces associations, parce que ça ne respecterait pas, par exemple, les symboles de la République. Je prends un exemple, imaginons une association royaliste. On peut s'associer pour défendre les idées royalistes. Elle ne pourrait pas toucher de subventions. Imaginons une association libertarienne. Elle ne pourrait pas non plus toucher de subventions puisqu'elle ne respecterait pas les symboles de la République. Et donc ça ne permet pas l'expression de la diversité, de la pluralité démocratique.
Alors,
depuis ce contrat d'engagement républicain, on peut observer que beaucoup d'associations ont été dissoutes.
D'accord. Alors, autre enjeu autour de la laïcité que les libres penseurs mettent souvent en avant, celui justement du financement, mais du financement des cultes. La libre pensée parle même souvent d'une véritable violation de longue date du principe de laïcité, surtout dans le domaine de l'enseignement. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi il y a polémique sur ce sujet ?
Moi, je me concentrais sur la loi Debré de décembre 1959, on l'a rappelé, c'est l'article 2 de la loi de 1905, l'État ne reconnaît, ne subventionne et ne salarie aucun culte. Donc l'État ne doit pas subventionner les cultes aussi pour des questions de concorde, d'égalité. Or, la loi de 1905 permet des financements publics de l'enseignement privé par le biais de contrats d'association avec l'État. Michel Debré, qui est aussi celui qui a fait la Constitution de 58 en grande partie, on peut penser pousser à ce que cette loi passe pour sauver l'enseignement privé. Il se trouve que désormais, cet enseignement privé sous contrat, donc financé par le public, les établissements sont à 95% catholiques. pour une église catholique qui est un petit peu en perte de vitesse, on peut penser que c'est un appui financier important qui lui permet toujours, au fond, de recruter. Donc l'État subventionne, au fond, une confession. Rappelez quand même que ça représente 12 à 13 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable. C'est l'État qui paye les professeurs de l'enseignement privé. Et ce qui est problématique, c'est que dans le même temps, il y a des lycées musulmans sous contrat, qui sont très contrôlés, qui, eux, se voient fermés de manière, semble-t-il, un peu arbitraire. Ça a été le cas par le préfet de Lille, alors qu'eux-mêmes, on a pu l'entendre dans l'actualité dernièrement, avec le lycée privé Stanislas, le lycée privé, collège privé Bétharram. Il n'y a manifestement pas assez de contrôle. Or, pourtant, alors c'est désormais le Beau-Rameau que ça, c'est rebaptisé le lycée ou le collège lycée Bétharram, le lycée du Beau-Rameau. Il n'a pas fermé ses portes. Donc, l'État subventionne de manière importante des enseignements privés ou l'école privée confessionnelle, et ça semble mettre en concurrence, au fond, le privé et le public à un moment où il n'y a pas assez d'argent, pas suffisamment d'argent pour l'école publique. On donne à ce point à l'enseignement privé qui crée une concurrence. Au fond, moins l'école publique fonctionne, plus ceux qui peuvent vont envoyer leur enfant dans les écoles privées, ce qui va contre aussi la mixité sociale.
Merci pour cet éclaircissement. Alors, on s'achemine peu à peu vers la fin de cette émission. On aimerait une dernière question, au moins. Vous êtes enseignant. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'enseignant de la façon dont la question laïque est abordée dans les cours ?
Alors, je ne vais pas me permettre de juger les collègues. Même si effectivement il y a peut-être une carence, on ne connaît pas suffisamment cette histoire de la République et puis de la laïcisation de l'école. On voit Ferdinand Buisson, Aristide Briand sur comme noms de boulevards et de rues, mais on ne sait plus trop bien qui ils sont. Une petite précision. Donc c'est plutôt la manière dont les politiques mènent leurs actions pour transmettre la laïcité et la faire vivre auprès des lycéens qui est critiquable. Je pense, alors transmise d'une manière quelque peu intimidante, soupçonneuse, et le fait est qu'elle est très mal comprise par nos élèves. Si on leur pose la question, ils estiment qu'au fond, ils ne doivent pas parler de leurs convictions religieuses avec leurs camarades. Donc c'est perçu comme quelque chose de répressif.
Une loi qui brime.
Oui. Une loi qui brime. Par ailleurs, la secrétaire d'État, l'ancienne secrétaire d'État à l'éducation nationale, Sarah El Haïry, lorsqu'elle venait essayer de transmettre cette laïcité et les valeurs républicaines à l'école, confrontée à des élèves qui avaient une conception de la laïcité, disons pas ouverte, mais la laïcité, disons républicaine, ça ne lui plaisait pas et a décidé de faire entamer une Marseillaise. C'est Charles Mercier qui rapporte ça dans son livre Le nouveau vocabulaire de la laïcité. Les élèves ont assez peu repris la Marseillaise, puisque c'était pas le propos, et elle a diligenté manu militari une inspection dans le lycée pour comprendre ce qui se passait auprès de l'inspection générale. Plus généralement, pour terminer de répondre à ta question, il y a un problème avec le républicanisme. Il faut évidemment inculquer ces principes républicains. Il y a un problème aussi. Principes et valeurs, c'est pas la même chose, mais je vais à l'essentiel. C'est effectivement très important. L'école doit faire des républicains. Mais l'école, elle peut pas tout dans une société qui véhicule ou qui promeut bien d'autres valeurs, et valeurs qui sont aussi partagées par les enseignants. C'est-à-dire, effectivement, être républicain, c'est le sens de l'intérêt général. C'est la liberté comme obéissance à la loi rationnelle. Ça implique aussi la vertu. La République, on fonde ça sur Aristote, Cicéron, la vertu était centrale. La démocratie, l'égalité devant la loi. Or, on est dans un monde économique et politique libéral au sens donc économique, qui promeut, disons, la concurrence, la compétition, le fait d'être un gagnant, c'est la liberté du renard dans le poulailler, faire ce qu'on veut, consommer, etc. Difficile à la fois de dire aux élèves il faut être républicain, et de l'autre côté il faut que tu sois un gagnant, il faut que tu sois compétitif, il faut que tu sois le meilleur, le premier de cordée, et puis si les autres sont derrière, ben tant pis pour eux, malheur aux vaincus. Donc difficile d'être républicain dans des sociétés qui sont inégalitaires, ça Rousseau l'avait déjà vu.
Merci Clément Denuit pour ces propos qui stimulent la réflexion. On se quittera là-dessus. Merci pour toutes vos réponses encore une fois, et à bientôt sans doute sur l'antenne de Bac FM, Bac FM 106.1, la radio lycéenne que nous remercions de tout cœur. À bientôt.